partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, j'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Grandville, tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour tout recommencer à Jersey.
Prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi.
D'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de parler, Lucas ?
Là, j'entends derrière le micro, dans mon casque aussi.
Ouais. Et moi, forcément, on ne m'entend pas. Pourquoi on ne m'entend pas ? Alors. Si, c'est bon, ça marche. Hein. D'accord. OK. Moi, je n'ai pas de retour sur mon casque, donc j'essaierai pendant la pause de trouver pourquoi. Mais c'est pas grave, au moins vous m'entendez. Donc reprenons, hein, fidèles auditrices, fidèles auditeurs, désolé pour ce petit contretemps. Donc on va reprendre sur ce vent de liberté dont je vous parlais, qui est un vent qui souffle en ce moment sur nos sourires qui sont enfin retrouvés. Vous êtes bien à l'Asperger Café, l'émission qui efface les frontières et permet pendant 1h30 de s'ouvrir à la joie du partage et de la rencontre de l'autre. Cet autre si proche et pourtant si loin. Vous les côtoyez dans le métro, ils sont vos collègues de bureau, vos voisins, des amis. Les autistes Asperger, véritables caméléons urbains, tentent de maîtriser l'art de passer inaperçu, de ne pas être remarqué, d'être tout simplement accepté. Mais c'est donc un combat de longue haleine qu'ils mènent, et c'est pourquoi depuis bientôt 9 ans, l'émission L'Asperger Café leur donne la parole. Unique en son genre, cette émission, rêvée par notre lumière dans l'obscurité Myriam Sarbach, présidente de l'association Asperger Amitié, est entièrement animée par des autistes Asperger. avec cette émission pendant 1h30, un dimanche tous les deux mois, sur IDFM 98.0, qui nous héberge gracieusement dans ses locaux, et sur IDFM 98.fr, ce sont eux qui ont la parole. Vous aurez la chance de pouvoir, l'espace d'un instant, aller à la rencontre de ces êtres si précieux qui passent finalement la plupart de leur temps à se cacher. Aujourd'hui avec moi dans les studios, pour cette dernière émission de la saison, j'ai la grande joie de vous présenter une personne qui a choisi, il y a quelque temps, de se laisser porter par ce vent de liberté. Un entrepreneur, un rêveur et un excellent formateur. Il est notre invité d'honneur aujourd'hui, Nicolas Eskenazi. Bonjour.
Bien le bonjour à tous.
Bienvenue dans le studio.
Merci bien.
Est-ce que c'est ta première antenne ?
Ma première radio, 100% radio, oui, il me semble.
Ah, incroyable. Bah écoute, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Tu es en très bonne compagnie. En tout cas,
j'ai été extrêmement bien accueilli et IDFM a un très bon café, si les auditeurs veulent savoir.
Super. Bien au chaud aussi à mes côtés, je suis accompagné de deux de nos chroniqueurs attitrés. Raphaël, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour, je vais bien. Franchement, je suis vraiment content de participer à la radio.
Super, nous aussi on est content de te retrouver ici, bien fidèle comme tu es. Et un autre de nos amis très fidèles, donc Lucas. Lucas, comment ça va ?
Bah moi je vais très bien, je n'ai pas besoin de dire bonjour, je crois qu'on m'a déjà entendu une fois.
C'est vrai. Et comment tu vis alors le retour dans le monde du spectacle ?
Le retour, je pense que tout le monde l'attend depuis longtemps.
Et tu vas nous en parler plus tard, d'après ce que j'ai compris. Super. Nos autres chroniqueuses et chroniqueurs étant juste derrière la porte, nous nous contenterons pour le moment de les saluer chaleureusement d'une main enthousiaste. Aussi, elle n'est pas derrière la porte, mais on sent sa petite oreille bienveillante qui nous écoute attentivement. C'est grâce à elle que nous avons la chance de nous réunir ici aussi souvent. Merci Myriam. Merci aussi aux pionniers de l'Asperger Café et tout particulièrement à Philippe Régera et à François Jadin qui a donné tout son cœur à l'émission pendant 7 ans. Car voilà bientôt 9 ans que l'Asperger Café nous rend visible l'invisible et ouvre les portes d'un monde auquel peu ont accès. Rappelons qu'aujourd'hui, un médecin sur 4 associe encore ce trouble à de la psychose. Et d'après un sondage d'OpinionWay de 2012, 37% des Français pensent à tort que l'autisme est un trouble psychologique. Il y a donc un réel besoin d'information, de confrontation à la réalité, pour apprendre, comprendre et permettre à ces êtres si précieux de retrouver enfin leur liberté. Au programme aujourd'hui, la rencontre de Nicolas Eskenazi et pour démarrer en beauté, des chroniques croustillantes qui vont régaler vos neurones et même stimuler vos papilles. Il agit souvent dans le noir, piqué par des émotions fortes, mais dont lui seul est le maître. Il aime se faire peur, se transformer, construire ou détruire. En main les clés de tous ses univers, avec sa console comme fidèle allié, il explore des mondes étranges où, pour une fois, il peut enfin faire exactement comme il l'entend. Raphaël, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je ne vais pas parler juste des jeux vidéo, mais des consoles qui est devenu des jeux rétro, enfin des consoles rétro, qui est devenu jusqu'à aujourd'hui des nouvelles générations aujourd'hui.
Super, la transformation donc des consoles à travers le temps.
Exact. L'histoire des consoles de jeux vidéo commence avec la mise sur le marché de l'Odyssée, mais c'est avec le succès de la console Atari Pong en 1975 que les enjeux économiques ont suscité l'émergence d'une branche d'activité spécifique. Depuis la fin des années 1989, le marché des consoles de jeux devient une guerre économique des trois grands constructeurs Nintendo, Sony et Microsoft. En totalité, depuis la création des consoles, il y a 9 génération. Première génération, c'est en 1972. Jeux vidéo répertoriés est l'Odyssée de Magnavox, créé par Ralph Baer. Ce jeu consiste à jouer à plusieurs jeux grâce à un système de calque à coller sur l'écran du téléviseur. La première génération de consoles qui commence avec Pong pour se terminer 8 ans plus tard. Deuxième génération est Crash du jeu vidéo en 1976 avec la Fairchild Channel F. Le joueur achète dorénavant les jeux qui l'intéressent. Une console ayant un grand succès avec l'Atari 2600. Ensuite, c'est avec le crash du jeu vidéo de 1983, à cause de la multiplication des jeux de basse qualité, ainsi à cause de la concurrence des ordinateurs personnels. La troisième génération devient l'industrie du jeu qu'en 1985 avec le succès de la NES, avec des jeux comme qu'on connaît de l'ancienne génération jusqu'à la nouvelle génération, Super Mario Bros., The Legend of Zelda et Castlevania.
Castlevania, et oui, je pense que c'est des jeux que notre invité Nicolas doit très bien connaître.
Oui, ça fait partie des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais relativement plus jeune. On va dire qu'au début des Castlevania, j'étais peut-être encore trop petit pour tout comprendre, mais j'ai suivi l'évolution de ces licences au fur et à mesure des années aussi, jusqu'à la série Netflix d'il n'y a pas si longtemps.
Super, ouais.
Cette année, la PC Engine et la Master System arrivent sur le marché, mais le succès de la PC Engine se limite au Japon et celui de la Master System en Europe et au Brésil. Le début de la guerre économique des consoles de la quatrième génération, et c'est à la fin des années 1980. Les microprocesseurs 16 bits et 16/32 bits équipent désormais la nouvelle génération de consoles vidéo. Les prix varient et la concurrence se met à jour. Sega et Nintendo se livrent une guerre économique. La Mega Drive et la Super Nintendo veulent être les premiers sur le secteur de la console de salon et le conflit s'étend jusque dans la catégorie des consoles portables où Nintendo et Sega proposent respectivement le Game Boy et la Game Gear. Leurs mascottes officielles sont directement concurrentes. Mario, le plombier, et Sonic, le hérisson bleu. C'est aussi l'époque au cours de laquelle les consommateurs européens font importer eux-mêmes leurs jeux des États-Unis, à cause des coûts de traduction trop élevés ne permettant pas de régionalisation officielle pour l'Europe. C'est pour ça que certains jeux ne sont pas sortis en Europe qui sont leur propre langue originelle.
Et c'est vrai, comme tu dis, c'était une véritable petite guerre. Hein. On se rappelle de certaines publicités, d'ailleurs, pour Sega. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, quand j'entends parler de Mega Drive et Sony et tout ça, ça me rappelle vraiment le slogan « Sega, c'est plus fort que toi ». Et toutes ces publicités qui étaient complètement invraisemblables, où justement, il y avait vraiment deux écoles. Il y avait l'école de la Mega Drive, des gens un peu cool et tout ça, et puis il y avait... l'école avec la Nintendo, la Super Nintendo, où c'était des jeux justement un peu plus Mario Brothers et tout ça. Il y avait vraiment deux clans, quoi. C'était une sacrée époque. Donc c'est très intéressant de pouvoir retracer tout ça. Est-ce que toi, tu as joué à Pong ?
Non, mais j'ai déjà entendu parler Pong.
Ouais.
Mais je pense que peut-être que j'ai joué, mais je ne m'en rappelle pas.
D'accord. Et comment tu vois la suite alors du jeu vidéo ? Parce que là, on arrive justement au cloud, à la VR, tout ça. Est-ce que tu as déjà essayé déjà des jeux en VR ?
Non, jamais. Non. Mais j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que même si j'essaie en VR, je crois que ça me mettrait mal à l'aise.
Ouais.
Donc, je pourrais pas, j'ai pas envie d'essayer VR, moi.
Ok, super. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, d'imaginer qu'il y a eu un monde... dans les années 70, où il n'y avait pas de jeux vidéo. Et c'est marrant aussi de se dire que c'est quand même une des époques les plus créatives de l'humanité.
Oui, on dit que les jeux vidéo n'est pas un côté artistique, mais ils se trompent parce que c'est vraiment un côté artistique. Le graphisme, même l'histoire aussi, est aussi artistique.
Tout à fait, ouais. Et on reviendra sur l'histoire d'ailleurs avec notre cher ami Nicolas plus tard. Merci beaucoup, Raphaël. Je pense que tu veux encore conclure rapidement.
Oui, je vais en conclure jusqu'à la 9e génération, mais vu que c'est un peu trop long les parties, je vais terminer avec les consoles de 9e génération, enfin 8e génération qui est récent, mais qui n'était pas rétro, bien sûr. La console de la 8e génération, c'est celle de la Nintendo 3DS sortie en 2011 au Japon, suivie par la PlayStation Vita sortie en 2011 au Japon également. En Europe, ce sont des consoles de salon. C'est la Wii U, sortie en 30 novembre 2012. Ensuite vient la Xbox One en novembre 2013 en Europe et aux États-Unis. Ainsi vient la PlayStation 4 qui est sortie en 2013 en Europe et aux États-Unis. Et ainsi la Switch qui prit le relais de la Wii U le 3 mars 2017. Okay. Et ceux de la 9e génération... Ben, c'est tout récent, c'est sorti en 2020. C'est la PlayStation 5 et Xbox. La PlayStation 5, qui succède à la PlayStation 4, a été annoncée en 2019. Elle est commercialisée en 2020, selon les régions du monde, en plus du modèle original doté d'un lecteur Blu-ray. Un modèle sans lecteur est commercialiser la PlayStation 5 digitale.
Ok, merci beaucoup. Et aussi, donc, toute la dimension collaborative qui arrive avec le jeu multijoueur. Enfin, il y a toute cette dimension-là aussi, je pense, sur les nouvelles générations de consoles. Merci beaucoup, Raphaël.
J'aimerais bien tout en parler des consoles, mais vu que les chroniqueurs ont besoin de parler de leur chronique, exactement, je vais m'en arrêter là pour le moment.
Super, merci à toi. On enchaîne avec une personne dont la pupille brille enfin à nouveau. 6 mois qu'il attendait cela, les parquets qui grincent, les lumières qui s'allument dans le noir, les cris, les larmes, les éclats de joie. Fini d'hiberner, le rideau de velours est enfin de retour. Alors Lucas, est-ce que la belle se réveille paisiblement de son sommeil ?
Oh mais paisiblement, en plus en forme que jamais. D'ailleurs, le 9 juin dernier, les salles de spectacle et les autres lieux de couverture sont enfin autorisés à accueillir de plus en plus de monde. C'est-à-dire, d'après la stratégie de réouverture établie par le gouvernement, une jauge de 65% de l'effectif établissement réouverture du public, ERP, et un plafond de 5000 personnes maximum dans chaque salle. Ainsi qu'un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes dans tous les établissements, sauf les cinémas. Bien sûr, ces établissements doivent toujours respecter les protocoles sanitaires adaptés en prenant en compte la jauge réglementaire de l'effet maximal. Autrement, ils seraient de nouveau fermés. Pour fêter ça, je vous annonce qu'à Avignon, le festival va reprendre à la grande joie des associations culturelles et des intermittents du spectacle.
Bah oui, quelle bonne nouvelle quand même, Avignon.
Exactement. Malgré son annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire, reconnaissons-le, des centaines de compagnies artistiques, je ne vais pas dire le nombre exact parce que sinon... Ils ont choisi de se déplacer au festival pour présenter leurs œuvres artistiques. Les concerts, les spectacles, les expositions, dans tous les lieux célèbres d'Avignon. Il débutera le 5 juillet 2021 mais va en plus afficher un programme composé de non pas une centaine, ni 500, ni 2000... Mais 1070 spectacles, dont 923 créations de par la France. Oups, je le dis.
Super, Lucas. Ça fait plaisir de te retrouver aussi enthousiaste, en tout cas. Et est-ce que tu as l'occasion, du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir aller voir des nouvelles pièces ?
Ah, bah non, en ce moment, je ne pouvais pas.
D'accord.
Et je viens d'apprendre hier par le quotidien 20 minutes, publié jeudi dernier, que la préfecture de Vaucluse n'imposera pas la jauge de spectateurs, mais qu'il imposera à 100%. Dans toutes les salles, 100% du public seront accueillis dans le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières et du port du masque obligatoire partout dans le festival d'Avignon. elle a été imposée tout récemment.
Espérons que les règles vont être respectées. C'est pas toujours évident. Bah, en oui. tout cas, c'est très positif de voir que ce festival reprend. C'est quand même un festival plein de joie, plein de création et un grand espoir et à la fois beaucoup de travail pour toutes ces jeunes compagnies qui essayent de s'en sortir. Donc on peut parler d'un regain d'espoir quand même.
Un regain d'espoir et une grande satisfaction pour toute la France.
Effectivement. Eh ben merci beaucoup, Lucas. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on y croit vraiment. La culture qui reprend et bien sûr aussi les restaurants. Ça n'a pas échappé à notre chroniqueuse japonisée que la cuisine est souvent au cœur de nombreuses discussions. Pour elle, la plupart du temps, les mets dont elle se délecte se prononcent très difficilement, mais se savourent pendant longtemps. Elle aime quand ils sont de toutes les couleurs, rose, violet, vert fluo, et avec juste assez d'écriture pour que l'on ne distingue plus du tout le contenu. Jessica, toi qui t'aventures dans les textures et te révèles à travers les goûts, qu'est-ce que tu nous as bien cuisiné aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais parler de l'occidentalisation de la nourriture japonaise qui a commencé bien avant l'ère Meiji. Donc l'ère Meiji, c'est en fait le premier empereur qui a gouverné le Japon. Et en fait, les premiers Européens à avoir vraiment le droit d'aller au Japon, ce furent les Portugais. Donc dès la période du grand shogun Nobunaga Oda, les commerçants, ils ont ramené des armes, bien entendu, ce qui a permis de gagner beaucoup de guerres, en fait, et de batailles très importantes, puisque c'était de l'équipement plus sophistiqué que l'adversaire. Donc forcément, ça a décimé des armées, mais également de la nourriture. Donc il y a un gâteau qui est extrêmement célèbre là-bas, qui s'appelle le castella, ou casutera en japonais. Donc en fait, au Portugal, ça s'appelle le pain de l'eau. Donc tout d'abord, ils l'ont ramené dans le port de Nagasaki. Ça a eu un succès tellement intense qu'il s'est allé dans tout le Japon, en fait. Dans tout l'archipel, ils l'ont adopté. Et donc ensuite, ils ont des petites confiseries qui s'appellent les Competo, donc c'est confeito au Portugal. Mmh. Et ça a été importé en 1546, donc ça remonte à très très longtemps par toujours des missionnaires. Ils viennent, en gros, au Japon, ils rapportent dans leurs valises des douceurs. Donc en fait, c'est des petites confiseries qui ressemblent soit à des boules de piquant, soit voire à des petites étoiles, donc de toutes les couleurs. Ça a différents goûts, en fait. Donc, il y a des parfums très occidentaux, toujours le citron, fraise et autres. Et surtout des parfums japonais, donc au sakura.
En plus, avec toutes ces couleurs, ça doit bien te plaire, ça.
En fait, ça ressemble aux petites étoiles qu'il y a dans Mario Galaxy, le jeu vidéo. C'est exactement la même chose.
Okay.
Et des goûts japonais, forcément, toujours des petites éditions limitées, goût sake, goût sakura, vraiment, pour dire, voilà, on est au Japon, c'est chez nous. Et ça, on va dire, fabriqué artisanalement, il n'y a qu'un seul endroit où on peut en acheter dans tout le Japon, donc c'est à Kyoto. Et c'est hyper dur à faire parce que forcément, c'est au moins 15 étapes pour les faire, donc c'est compliqué d'en trouver. Ensuite, on a, au niveau du salé, on a des tempura, donc c'est tout simplement des crustacés ou des légumes dans une pâte à beignets. Donc ça a été ramené au XVIe siècle par encore des missionnaires portugais. Et au Portugal,
quand tu dis des missionnaires portugais, c'est des jésuites, au fait.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
Et donc au Portugal, quand on voit sur les cartes, ça s'appelle tout simplement des peixinhos da horta. Mon accent portugais n'est pas terrible.
Moi, j'ai trouvé ça très chantant. Hein.
Ouais, merci. Ensuite, on a le panko. En fait, c'est une variété de chapelure qui est utilisée pour des plats comme le tokatsu. Donc en fait, c'est une côtelette de porc frit. Ou le meshikatsu. Et à l'époque, cet art culinaire portugais, les gens l'appelaient l'art naban, ce qui est une traduction littérale qui veut dire les barbares du sud. C'est pas très positif comme nom, on va dire, barbare. Et donc, voilà pour ce petit tour d'avant Hermergie, puisqu'après, il y a eu les Européens, Français, Anglais qui sont venus, ils ont rapporté encore plus de choses. Et on peut dire que la moitié de la nourriture japonaise, on va dire, qui est soi-disant super connue, en fait, c'est des mélanges avec les Européens.
Ouais, c'est hyper intéressant. C'est... Surtout les tempuras, on n'avait aucune idée que ça venait justement de, finalement du Portugal. Quoi.
Oui, ouais. Franchement, même il y a des choses, les takoyaki, en gros, sans les Européens, ça n'existait même pas. Ils n'avaient même pas le pain, la pâte pour faire autour, ça n'existait pas. Et dans les années 60, il y avait des espèces de food truck qui passaient. Et il y avait une dame qui apprenait aux femmes japonaises à faire la pâte. Donc elle était là, et dans les reportages, on voit les dames, elles sont leur petit calepin en train de noter comment faire la pâte à pain et tout.
Et c'est vrai qu'on a du mal instinctivement à relier le Japon avec le Portugal. Alors que c'est vrai qu'il y a un film d'ailleurs qui est sorti, je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Silence. C'est un film de Martin Scorsese et qui a été fait en 2016 et qui est vraiment l'histoire des jésuites au Japon et où on découvre que y a eu entre 300 et 500 000 japonais qui ont été baptisés chrétiens en fait à ce moment-là.
Oui, et il y a même eu un des samouraïs les plus connus était un esclave qui venait de Madère, donc Yasuke. Et en fait, Nobunaga, Oda l'a pris parce que forcément, un mec qui fait presque 2 mètres de haut sur le champ de bataille, je vais vous dire, ça fait peur, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et du coup, en fait, Nobunaga, Oda, c'était un des seuls qui n'était pas contre l'ouverture du Japon, vu qu'il accueille des jésuites, etc., etc. Alors que les autres, c'était vraiment tradition, tradition, tradition. Bien Nobunaga, sûr, Oda, c'était non, moi, la tradition, vous êtes gentils. J'en veux pas.
Ouais. C'est super intéressant. Et ce mot que tu as bien prononcé, que moi je vais sûrement mal prononcer, c'est peixinhos da horta, c'est ça? À peu près?
C'est peixinhos da horta.
Et ça veut dire quoi alors?
En gros, c'est des peixinhos, c'est des petits poissons en fait.
Ouais, j'adore. En fait, j'ai regardé justement la définition et c'est petits poissons du jardin.
Voilà, c'est ça.
Je trouve ça très sympathique pour. Ces petits poissons qui vont finir frits dans de l'huile à 150 degrés, mais des petits poissons du jardin.
Après, c'est des légumes aussi. Hein.
C'est vrai. Très bien, et merci beaucoup Jessica pour cette chronique qui nous a ouvert l'appétit.
Ouais, et fait voyager.
Et fait voyager, effectivement. Et ça nous a instruits aussi en même temps.
Mmh.
Maintenant, on va faire un petit voyage musical, le temps de se remettre un peu de ses émotions. Et on vous retrouve d'ici 2 minutes, probablement, avec la suite des chroniques.
Lift every voice and sing till earth and heaven ring. Ring with the harmony of liberty. Let our rejoicing rise high as the listening skies. Let it resound loud as the rolling sea. Sing a song full of the faith that the dark past has taught us. Sing a song full of the hope that the present has brought us. Facing the rising sun of a new day begun. Let us march on till victory is won. Sing a song full of the faith that the dark past has taught us. Sing a song full of the hope that the present has brought us. Facing the rising sun of a new day begun.
begun. Let us march on till victory is
one. Que l'humanité est belle quand elle réussit enfin à s'unir et à chanter d'une seule voix. Dans un pays où l'on parle de droits de l'homme et non de droits des personnes, face à un mode de pensée archaïque, mais qui pourtant résiste, elle est là. Prête à se faire entendre, prête à faire valoir ses droits. Jusqu'au bout de ses doigts, de son poing levé, on peut lire dans les interstices ce mot qui fait peur et qui résonne au loin. Justice ! Sophie, de quoi vas-tu nous instruire aujourd'hui ?
Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour thème une personnalité emblématique aux États-Unis qui s'appelle Maya Angelou. Donc on va voyager aussi, on n'est plus au Portugal ou au Japon, là on est aux États-Unis. Donc du coup, j'ai choisi ce personnage parce qu'il me semble que dans notre génération actuelle, on a d'énormes difficultés dans nos sociétés et qu'on n'a pas forcément toujours maintenant des mentors ou des personnalités qu'on peut regarder en fait, dont on peut s'inspirer. Et il existe...
Du moins, on nous les cache peut-être de temps en temps.
Peut-être également aussi, c'est vrai.
Surtout des femmes.
Surtout hein? Des femmes.
Oui.
Mais bon, il y a des écrits qui sont immortalisés, heureusement. Hein. Et donc, il y a des personnalités comme ça. Je pense que cette personnalité-là, elle est un petit peu moins connue du public français. Elle est essentiellement connue aux États-Unis. Elle est moins connue que Toni Morrison ou James Baldwin, mais elle est... Elle a une voix très, très, très importante, du coup, aux États-Unis. Donc, c'était une femme avec un très gros caractère et une immense capacité de résilience. En tout cas, c'est comme ça que la décrivent ses contemporains. Mmh. Elle a été énormément citée, parce qu'elle est militante de base. Elle était militante de base. Elle est morte à 86 ans, en 2014. Et du coup, elle a reçu quand même une médaille de Barack Obama. Qui l'a décrit comme quelqu'un qui a le pouvoir d'allier les gens, en fait, et de les inspirer. Donc, voilà.
Bah, plus d'un million de copies vendues de son livre le plus connu, enfin, son recueil le plus connu.
Oui.
I Know Why the Caged Bird Sings.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu une grande influence, au fait.
Très, très grande influence. Et, en fait, au départ, elle parle, en fait, de la condition noire. Je parle crûment, pardon, hein, mais de la condition noire aux États-Unis. Mais on va beaucoup plus loin au fil du temps que c'est la condition humaine, en fait, dont elle est fascinée par l'être humain. Et sa croyance principale, c'est vraiment l'égalité, la tolérance. Comment faire pour que les gens se rallient entre eux et acceptent leurs différences. D'ailleurs, elle le dit elle-même, pour elle, la différence, on doit en rire, en fait. Tout le monde, en fait, l'être humain de base est semblable. Nous sommes tous semblables et la différence, elle est superficielle et on doit en rire. Donc voilà. Donc, pour revenir un peu sur son passé, elle a eu une vie très difficile. Étant jeune, en fait, à 7 ans, elle se fait violer. Et donc, petite fille, en fait, elle va dénoncer son agresseur. Et son agresseur va être assassiné un jour plus tard.
Qui est son oncle, quand même, son agresseur.
Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails.
Oui, mais enfin, c'est... Ouais.
C'est très, très grave. Il est emprisonné pour une journée. Il sort de prison et il est assassiné. Suite à ça, elle va penser que c'est sa faute et elle va devenir muette pendant près de 5 ans. Elle ne va plus ouvrir la bouche. Et pendant ces 5 ans, elle va lire. Elle va observer, elle va lire le plus d'ouvrages possibles. Et elle va construire comme ça son imaginaire et son vocabulaire. Et de fil en aiguille, à 17 ans, elle tombe enceinte. Elle doit travailler pour subvenir aux besoins de son enfant. Et elle va exercer des tonnes de métiers. Elle va être actrice, elle va être danseuse, elle va être chanteuse, éditrice. Elle va conduire des camions. Enfin, elle va faire tous les métiers possibles. Et à 40 ans, elle va commencer à écrire. Parce qu'elle a, entre-temps, fréquenté du coup, beaucoup de milieux politiques. Elle a pu côtoyer Martin Luther King, Malcolm X, évidemment. Donc, elle se construit vraiment un univers de militante activiste. Et jusqu'à que les deux personnes en question soient assassinées, elle va continuer, elle, son œuvre, à travers ses écrits. Et donc, du coup, moi, je trouve ces écrits qui sont très, très forts parce que, bah, les gens ils peuvent s'identifier, ils peuvent s'en inspirer quand les choses vont mal, qu'on se sent pas très bien. Et bon, on lit des choses comme ça et c'est assez simple, n'empêche, parce que une personne tellement brillante, mais qui a su retranscrire en fait les émotions du plus grand nombre et les états d'âme des plus grands nombres. Donc les gens s'y retrouvent, ils peuvent lire facilement parce que c'est accessible. Et ça inspire, les gens, ça leur donne de la force, en fait.
Complètement.
Donc je trouve ça très, 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 très important.
C'est pas que le combat des Afro-Américains,
non.
Effectivement.
Il
faut vraiment le voir comme, finalement, l'esclavagisme, même si chacun le vit un peu à sa manière, c'est aussi la prison dans laquelle on s'enferme, on peut se fermer. Et c'est une prison qui peut prendre plusieurs formes différentes. Moi, je pense justement à ce magnifique poème qu'elle a écrit je crois qu'il s'appelle « Still I Rise ».
Oui, bah justement, je voulais en lire un extrait parce que je trouve que c'est magnifique.
Ah oui, vas-y.
Alors, parce que j'en ai sélectionné plusieurs, mais c'est vrai qu'il est absolument magnifique et je pense que ça vraiment, ça parle à beaucoup de gens. Donc, un petit extrait. Bon, je suis désolée, j'invite les gens à regarder les vidéos sur YouTube parce qu'elle a une voix très charismatique, une présence. Donc, quand on l'écoute, forcément, on se sent encore plus transporté. Hein. Mais avec les mots, je vais tenter. Donc, avec la certitude démarrée, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir brisée, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants? Est-ce mon dédain qui vous blesse? Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant mon potager? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large. Jaillissant et gonflant, je tiens dans la marée, en laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur. Je m'élève. Vers une aube merveilleusement claire, je m'élève. Emportant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis les rêves, le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève.
Magnifique.
Elle a des mots très, très, très profonds, effectivement.
Ouais, c'est un vrai combat. Alors, bien sûr, quand c'est en français, ça perd une certaine dimension.
Bah oui, il faut vraiment l'écouter. C'est un personnage charismatique.
Ouais.
Et on a besoin de pouvoir voir ce genre de choses. Parce que c'est ce qu'elle expliquait justement dans de nombreuses interviews. Elle a fait une seule interview en France en 1980. Et donc elle explique qu'elle est revenue quand même sur le viol qu'elle a subi à 7 ans. Et elle est capable de dire qu'en fait, c'est cette période-là de sa vie qui a été déterminante. Parce que c'est ce qui lui a permis en fait de s'ouvrir et d'accumuler toutes les connaissances, les compétences qu'elle a pu avoir. Donc elle en a fait une force en fait. C'est absolument extraordinaire. Mais elle explique justement que la chose la plus importante pour notre génération, c'est de prendre soin des enfants, de leur éducation, de leur bien-être, que tout commence par l'enfance pour construire les individus de demain, forcément. Ouais, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Parce que
non, mais effectivement,
tu parlais
de résilience. Là, je pense qu'on est vraiment justement complètement dans le sujet. C'est incroyable de voir une femme comme ça qui aurait pu peut-être être détruite par ça, mais
c'est
qui
ça.
Finalement.
Voilà, et du coup, j'ai retrouvé mon idée, je suis désolée.
Ouais.
Donc voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, elle parle de ça comme le problème du cynisme, qui maintenant c'est très actuel, hein, mais le cynisme qu'il y a maintenant chez les jeunes, partout d'ailleurs, hein, mais j'ai envie de vous dire, mais le problème du cynisme qui détruit l'individu parce qu'il passe de ne rien savoir à ne plus croire en rien. Et c'est le risque, en fait, et ce qui fait... Elle pensait sincèrement, c'est tout à fait vrai, que tout le monde a son talent, qu'il faut croire en son talent et croire en soi, et dépasser, en fait, tout le cynisme et l'amertume qui peut se développer au cours d'une vie et qui nous empêche, en fait, de nous rassembler et de pouvoir achever ce qu'on souhaite faire, en fait. Elle pense que la colère, en tout cas, elle pensait, pardon, que la colère, c'était un moteur pour les gens qui devaient être en colère, au contraire, qui devaient montrer, qui devaient l'écrire, qui devaient la parler, qui devaient la voter, que c'était normal d'être en colère dans ce monde. Mais surtout, pas d'amertume et pas de cynisme. C'est des choses très importantes, je pense, qu'on peut oublier
bien sûr,
facilement.
Ouais. Et toujours, toujours continuer à y croire, garder l'espoir... Sentir qu'à travers ces cicatrices qui se pansent ou qui restent ouvertes, il y a toujours des ailes qui peuvent pousser, quoi.
C'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'elle est très, très présente dans les écrits, dans les universités américaines. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos à son sujet et des témoignages. c'est important de se remémorer ces paroles-là et de regarder des choses comme ça, je pense, parce que c'est
surtout
très inspirant.
C'est la première femme poète aux États-Unis.
Première femme.
Et que tu as cité Barack Obama, mais elle était aussi pour
elle a fait l'investiture de Bill Clinton en 1993. Ouais. Elle a écrit un poème, The Rock.
Mm-mm. Ouais. Donc oui, ce poème, je vous invite vraiment à le lire si vous ne le connaissez pas, sachant que s'élever, ce n'est pas tout à fait la même chose en anglais quand on dit « I
c'est
rise » déjà.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui « rise » en premier? C'est le soleil. Mm-mm. Il y a vraiment cette image de « au fait, if I start rising », c'est un mouvement continu.
C'est
pas juste « je me lève », c'est « ça y est » au fait. Ça y est, je sors de tout ça et je vais éclairer le monde de ma lumière. Quoi.
C'est ça.
Donc, c'est magnifique. Moi, ce texte, c'est la première fois que j'ai lu ce poème. J'avais des frissons partout, quoi.
Ah oui, et puis comme je le répète encore une fois, je suis désolée, mais en l'écoutant et en le voyant, on le ressent encore plus fort.
Mm-mm. Ouais, ok. Eh bien, merci beaucoup, Sophie.
Je vous en prie.
Magnifique chronique, très intéressant. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Maya Angelou, allez voir un peu, découvrir toute son œuvre, toute l'étendue de son œuvre, parce que ça vaut vraiment le détour. Je me souviens de paroles d'une chanson de Pierre Perret qui s'appelle Lily. Et une des paroles dit justement « Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. » Ça fait un sacré distinguo. Mais pourtant, nombreux sont les compositeurs qui rêvent de cet ailleurs et qui se laissent inspirer par cet étrange étranger qui, en quelques notes, arrive à les transposer dans une toute autre réalité. Une richesse qui n'a pas échappé à notre fidèle chroniqueur. Son temps, il ne le perd jamais, il le compte. Il l'utilise pour donner du rythme, pour surprendre, pour glorifier. De soupir en quart de croche, il a un plaisir pointé à composer. La musique, pour lui, c'est la vraie liberté. Un champ d'expression où sa singularité devient un atout de la première importance. Félicien, sur quoi va-t-on s'accorder aujourd'hui ?
Alors tout d'abord, bonjour à tous. Pour cette dernière émission avant les vacances, ma chronique va porter sur un compositeur peu connu, Maurice Delage, donc, que j'ai découvert en jouant récemment une partie pour harpe dans une de ses œuvres, intitulée « Quatre poèmes hindous ». Maurice Delage est un musicien autodidacte, violoncelliste et pianiste. Il a vécu au XXe siècle, né en 1879 à Paris et mort en 1961, et a été un ami proche de Maurice Ravel. Donc il était connu, Maurice Ravel, c'est un compositeur quand même du XXe siècle, donc ça me paraît logique, c'était pas n'importe qui.
L'histoire a choisi son Maurice.
Alors il admirait Claude Debussy et a fait partie du groupe des Apaches. Par ce nom, il se voulait subversif. Alors, c'est un mot un petit peu que je ne connais pas trop, mais les Apaches étant au départ le nom familier pour désigner une bande de voyous. C'était un groupe composé de peintres, poètes, chefs d'orchestre, critiques d'art et musiciens qui se réunissaient chez les uns et les autres tous les samedis pour confronter leurs idées de 1902 à 1914. Stravinsky y appartiendra un temps en 1909 et Ravel dédiera chacune des pièces de son œuvre Miroir, j'imagine que c'est connu mais moi je connais pas trop ça, et un membre des Apaches. Alors Maurice Delage tout d'abord découvre l'art japonais à l'exposition universelle de 1900. Il fait plusieurs séjours en Inde et au Japon en 1912-1913. Donc 1900 c'est facile à se rappeler, c'est une date tournée.
Ouais. Puis c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Donc pour découvrir des artistes ou
c'était
découvrir
facile,
des nouvelles façons de penser, c'était ça, ouais.
Oui.
Effectivement.
Ce qui inspirera toute son œuvre. Donc ce sera la première tentative d'introduction de la musique indienne dans la musique occidentale. Il se consacrera à la poésie japonaise suffisamment pour traduire 3 poèmes de la lyrique japonaise mis en musique par Stravinsky. Donc son œuvre la plus connue, créée en 1914, « Les quatre poèmes hindous » dans lequel j'ai participé, est un ensemble de mélodies pour soprano et musique de chambre avec 2 flûtes, 2 clarinettes, un hautbois, une harpe et un quatuor à cordes. Donc quatuor à cordes, ça veut dire, je l'explique rapidement, de ce quoi ça se compose, deux violons, un alto et un violoncelle.
D'accord.
C'est très courant, souvent maintenant c'est beaucoup écouté.
Et ça raconte quoi l'histoire de Bénarès alors, tu sais ou...
Alors dans cette pièce, il y a quatre mouvements pour quatre poèmes inspirés de mélodies composées dans différentes villes où il a fait étape en Inde. Donc il a voyagé en Inde et au Japon. Donc les noms des poèmes sont Madras, Lahore, Bénarès et Jaipur. Son langage musical est représenté par une palette de couleurs différentes. Rouge pour Madras, donc c'est le premier poème. Vert pour Lahore. Avec le poème de Bénarès, on fait ressortir la couleur multicolore en le rendant plus joyeux et festif. Et pour Jaipur, donc le dernier poème, le calme est rendu de nouveau avec la couleur rouge. Ça aurait pu être en bleu, mais c'est de nouveau en rouge comme pour le premier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est des couleurs primaires.
D'accord.
Voilà.
Donc Maurice Delage... On associe rarement le calme au rouge quand même, mais effectivement la boucle est bouclée, ouais. Comme ça on peut dire.
Un peu, oui, comme le premier poème, on revient en rouge. Peut-être que c'est un petit peu différent, mais moi, je pense que c'est rouge. Maurice Delage a composé une quinzaine d'œuvres, surtout des poèmes symphoniques et des mélodies, chants avec piano ou ensemble instrumental, dont en 1925 des Case, mélodies sur des poèmes japonais pour ensemble de musique de chambre, piano et soprano. Ses compositions ont été très peu jouées en public, ni radiodiffusées de son vivant. Et pour conclure, j'aimerais aussi ajouter que ça m'a beaucoup aussi ouvrir les oreilles, découvrir de nouveaux horizons et me permet de rejoindre un orchestre. Je trouve que c'est une super expérience de découvrir plein de musique.
Super, voilà. Oui. Et donc, est-ce que pour toi, la harpe, justement, dans un contexte indien, ça... Quelle serait la différence avec d'autres compositeurs, justement, plus européens?
Peut-être il y avait pas mal de mesures irrégulières, de musique,
d'accord.
De choses atonaux, des harmoniques, des contretemps. Enfin, ça reprend souvent dans les autres musiques aussi, mais peut-être que la couleur était différente.
On parle souvent aussi de la longueur de la note tenue quand on parle de musique indienne. Enfin, j'ai beaucoup entendu ça. Et avec le fait que...
Notes liées, vous voulez dire?
Oui, avec le fait que... oui, et surtout une question de rythme. C'est-à-dire qu'on a tendance à donner beaucoup plus d'importance à un passage. Et après, quand on a l'explosion, justement, rythmique, elle a beaucoup plus d'impact que nous, dans nos musiques, où on a plutôt tendance à en rajouter un peu partout, parce qu'on a besoin
vit,
de variations.
C'est sûr que c'est une musique qui vit, c'est... Et moi, j'aime particulièrement, je crois, le troisième, parce qu'il est plus gai, il est plus vif, il va plus rapidement.
Celui qu'on va écouter, alors, Bénarès, c'est ça?
Voilà, il y en aura de Bénarès et Jaipur. Donc, je voulais vous passer les deux derniers, parce que...
Eh bien, super. Merci beaucoup, Félicien. Chères auditrices et chers auditeurs, on va donc maintenant passer à Bénarès pour cette version multicolore qui saura probablement vous séduire.
Nous avons entendu cette magnifique version
Benares. Et maintenant, on va passer donc à la version qui va normalement restaurer cette harmonie intérieure, ce calme avec la couleur rouge, même si ça nous surprend, c'est Jaipur. Fidèles auditrices, fidèles auditeurs, vous êtes bien sur IDFM 98.0. Pardon. Nous sommes de retour donc avec toute l'équipe et notamment avec Nicolas Eskenazi qui est à nos côtés. C'est il ne parle pas indien, mais il parle un langage que seuls les proches de sa tribu arrivent à comprendre. Après avoir monté sa boîte de jeux vidéo Edio Games et lancé le jeu en ligne The Ultimatest Battle, Nicolas Eskenazi décide de revenir à sa première passion, le narrative design. Aujourd'hui, riche de son expérience d'entrepreneur, il enseigne dans différents établissements et travaille sur de beaux projets en parallèle. Nicolas, ravi de t'avoir à l'antenne.
Eh bien, ravi d'être présent avec vous. Merci pour votre accueil.
Super. Alors, dis-nous, le game design, le narrative design, c'est quoi au juste ?
Alors, ça peut être énormément de choses. Le game design, à proprement parler, c'est la conception du jeu et des mécaniques de jeu. C'est-à-dire, c'est le game designer qui va être un petit peu le chef d'orchestre et c'est tout le côté conception du jeu vidéo. On imagine un style de jeu, puis on se dit, OK, comment est-ce que ça va fonctionner ? Et il faut pouvoir, du coup, se mettre à la place des joueurs, se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire ressentir aux joueurs comme différentes émotions ? Et il faut réussir, du coup, à parler à tous les techniciens qui vont réaliser ce que nous, on a conceptualisé. Du coup, il faut savoir parler aux développeurs, il faut savoir parler aux graphistes, par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, pour pouvoir réaliser quelque chose de faisable techniquement. C'est pour ça que je ne suis pas un technicien, je ne sais ni coder, ni dessiner, ni animer. D'accord. Mais par contre, il faut avoir un minimum de notions dans ces différents domaines pour pouvoir un petit peu chaperonner tout le monde en faisant évidemment en sorte de respecter les contraintes des uns et des autres. Des fois, il nous arrive d'imaginer un contenu qu'on pense formidable et le développeur nous dit, écoute, ça foncièrement c'est pas possible, ça va me demander 6 mois de boulot, mais à l'inverse, être capable de discuter avec lui pour essayer de jouer des mécaniques qui lui seraient beaucoup plus simples de réaliser, quoi. Et le côté narrative design, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus le côté simplement background, histoire, personnage, sentiment, l'écriture des dialogues, etc.
D'accord. Beaucoup, beaucoup d'empathie, du coup, dans ce métier. On a tendance à l'oublier.
Oui, beaucoup d'empathie et surtout beaucoup, beaucoup de remise en question. Je pense que c'est ce qui est le plus important quand on fait quoi que ce soit de créatif, être capable de pouvoir le montrer aux autres et se remettre en question. On peut avoir des certitudes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut toujours se dire, d'accord, mais je me suis peut-être trompé, et du coup être capable d'entendre ce que les autres ont à dire, et pas nécessairement boire la totalité des conseils que les autres bien gens vont vous donner, mais être capable de les entendre, et pouvoir ne serait-ce que se justifier en disant, ah ben d'accord, étant donné les réactions de mes testeurs, par exemple, je vais peut-être modifier ça comme ça, ou au contraire, à mes testeurs, ils m'ont dit ça, mais je suis quand même certain que ça, c'est la bonne direction. Voilà, il faut être capable de se remettre en question, mais d'un autre côté, il faut être aussi capable d'asseoir ses certitudes, histoire de, histoire de rester cohérent dans sa création.
Bien sûr, toujours rester ouvert. Félicien, il me semble que tu as des questions à poser à Nicolas.
Alors tout à fait, j'ai deux questions à vous poser. Alors quel était le jeu vidéo, d'abord la première question, quel était le jeu vidéo qui vous a plu le plus sur tout ce que vous avez produit?
Alors sur tout ce que j'ai produit, ce n'est pas produit Monts et Merveilles encore.
Ce catalogue immense.
Voilà, ce catalogue immense de un jeu sorti et un jeu en cours de développement. Du coup, c'est pas énorme, mais j'ai aussi tout un tas de prototypes qui sont dans des fichiers sur mon ordi ou sur des post-it et tout. Et puis j'ai essayé de me demander de faire le tri entre tout ça. C'est un petit peu comme demander à une mère de faire le choix entre tous ses enfants. Donc c'est un petit peu compliqué de vous dire lequel je préfère à proprement parler. Notre premier jeu, du coup, qu'on a sorti avec Feu, notre studio Edio Games, qui s'appelle The Ultimate Us Battle, est un jeu dans lequel je me suis énormément investi et surtout je me suis énormément amusé. Notre principe, c'était vraiment, enfin ma volonté, c'était vraiment de presser le potentiel de notre jeu parce qu'on faisait un petit peu la guerre à tout ce qu'on considérait comme étant des jeux vidéo mal exploités, avec un potentiel de fou, mais au final on a assez vite fait le tour et nous on était basé sur un principe très simple. Pour ceux qui connaissent les jeux des Worms, les petits vers de terre en deux dimensions,
On est obligé d'être nostalgique quand on voit tout ça.
Exactement, qu'on a repris ce principe mais en temps réel, en beaucoup plus dynamique du coup, avec la possibilité de personnaliser ces différentes classes, les différents personnages qu'on jouer. Et du coup, je me suis vraiment énormément amusé à essayer de réfléchir à tout un tas de mécaniques, encore une fois, toujours en respectant les contraintes techniques, graphiques et de développement, histoire d'avoir vraiment un maximum de contenus divers et variés pour qu'il n'y ait jamais vraiment de bonne manière de jouer. En fait, chacun va jouer selon sa manière fétiche et en fonction de ce que le personnage d'en face, en fonction de la manière dont les autres joueurs jouent, pardon. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu, c'est qu'on considère qu'on a plutôt réussi le pari de ne pas avoir de ce qu'on appelle la méta dans le jeu vidéo. La méta, c'est Most Efficient Technique Available, c'est la meilleure manière de jouer. Nous, on n'avait pas vraiment de meilleure manière de jouer. C'était vraiment en fonction de la manière dont tu voulais appréhender le jeu et évidemment en fonction de comment l'autre en face jouait. Il n'y avait pas un équipement ou un personnage qui était bien meilleur que les autres. Ça dépendait vraiment de la manière de faire et ça fait vraiment partie de mes grandes fiertés. Donc je pense que même si mon jeu fétiche, c'est toujours celui sur lequel je bosse en ce moment, pour l'instant, ça reste mon unique jeu vraiment sorti et complet, qui s'appelle The Ultimate Us Battle, toujours disponible sur Internet, même si le studio a fermé, n'hésitez pas, c'est un jeu gratuit, dispo sur Steam, a priori, sauf quand il y a quelques problèmes techniques.
Ok.
Donc, ma deuxième question, c'était en quoi consiste votre travail et comment vous procédez, comment?
D'accord. Là-dessus, comme je disais à Guillaume tout à l'heure, ça dépend un petit peu du coup des différentes casquettes, parce que dans un studio indépendant, on est un petit groupe de personnes. Et du coup, chaque individu va devoir faire tout un tas de choses. Moi, typiquement, dans Edio Games, je travaillais dans tout ce qui était autour du game design, à proprement parler, mais je faisais aussi tout ce qui est communication en interne, éditorial, écriture des contenus, etc.
Donc pour rester... parce que quand tu parles de dialoguer avec les différents services, normalement, ce n'est pas tout à fait le travail de quelqu'un qui fait du narrative design, par exemple.
Voilà, tout à fait. Ouais. En l'occurrence, sur Edio Games, le narrative design, je n'en faisais vraiment pas du tout. Je faisais les contenus éditoriaux, ça veut dire qu'on avait différents articles qu'on sortait, donc tout ce qui est communication. Et en interne, dans le jeu, on avait presque 1000 objets. Et pour chacun de ces objets, on inventait du coup des petites descriptions avec des petites calembours un petit peu sympas. Toute notre équipe était un peu fan de François Perreux, ces trucs du genre. Et du coup, j'essayais de jouer là-dessus. Du coup, je me suis aussi pas mal amusé. Donc, il y a beaucoup de créatifs, mais pour vraiment revenir sur le game design, malgré tout, même si on est un petit peu allergique à l'école, on s'en rend compte quand on crée. Les maths, c'est la vie. Et du coup, mon travail consistait pas mal à faire en sorte d'inventer des nouvelles possibilités de jeu, comme je disais tout à l'heure, tout en gardant l'équilibre de l'équipement de base. Donc pour vous resituer un petit peu, dans notre jeu, tous les personnages avaient un équipement. Par exemple, on avait le soldat qui avait un bazooka, un fusil à pompe, un bâton et des grenades. Et du coup, moi, mon travail, c'était d'inventer d'autres armes, d'autres types de bazookas qui réagissaient différemment, d'autres types de fusils à pompe qui réagissaient différemment, et ainsi de suite. Mais mon boulot, c'était du coup de dire, ok, ce fusil à pompe, par exemple, il va être beaucoup plus fort au contact, mais il va très vite devenir nul si jamais il est à grande distance. Et du coup, c'était un petit peu de jauger ça, avec du coup des petits tableurs, avec des notions de mathématiques, en disant « Ok, je veux que telle classe soit capable de tuer telle classe à telle distance en tant de secondes. » Et du coup, c'est un petit peu de jongler avec tout ça, histoire de toujours faire en sorte que rien ne soit vraiment plus fort que l'équipement de base, qui est, encore une fois, la base sur laquelle on est obligé de se fixer. Ce que je conseille toujours quand un de mes étudiants, par exemple, en game design, décide de faire quelque chose avec énormément de contenu, je lui suggère toujours de partir d'une base. Ok, quelle va être, par exemple, la puissance basique de, s'il fait un jeu de cartes, de une de tes cartes, pour pouvoir toujours rester équilibré vis-à-vis de, des futurs contenus qu'on va proposer, quoi. Et de pas faire simplement de la surenchère de puissance, mais plutôt de faire quelque chose d'intelligent pour augmenter simplement le côté ludique et pas le côté « Ah, je suis plus fort parce que j'ai la dernière arme qui est sortie, quoi. » Donc voilà, côté un petit peu créatif, côté un petit peu mathématique, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'écoute de son équipe technique comme de ses joueurs.
Donc un peu comme sur une machine de mixage, vous avez fait un peu ces...
C'est l'idée de ces machines de mixage, mais c'était des tableurs Excel.
Ah oui, d'accord. Okay.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, il doit y avoir du tableur Excel dans tous les sens, parce que ça fait rêver, mais au fait, oui, pour que ce soit bien et que justement on arrive à jauger ces différences... et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui passe au-dessus, etc., il faut tout bien soigner.
Complètement. Et puis après, il y a aussi des utilisations qu'on n'imagine pas nécessairement. Par exemple, quand on invente un certain nombre d'objets qui vont pouvoir être utilisés en jeu, on est censé, nous, en tant que game designer, imaginer toutes les combinaisons d'objets possibles. Mais parfois, comme je vous disais, on avait 1000 objets. Il y avait beaucoup d'objets cosmétiques, mais on avait énormément d'objets de gameplay aussi. On n'avait pas nécessairement pensé à la combinaison de un personnage qui joue ça et un personnage qui joue ça. Et en fait, on va se retrouver avec des combinaisons qui assurent la victoire. Et du coup, on n'est pas sur 100% de réussite à chaque fois qu'on invente quelque chose. Et des fois, ça nous arrive après coup, même si on avait bien tout pensé en amont, bien fait ses petits calculs et tout, de se retrouver en fait dans une situation de jeu où bah, un joueur exploite en quelque sorte quelque chose auquel le game designer n'avait pas pensé. Okay, et du coup, sûr. On doit aussi revenir. Donc, c'est pour ça que la phase de test et d'écoute et de critique est extrêmement importante dans le GD.
Et tu avais d'ailleurs fait beaucoup appels aux particuliers justement pour tester le jeu et te donner des retours dessus.
Ouais, tout à fait. Le jeu, bah, déjà, le jeu était gratuit. On avait des systèmes de paiement en ligne, mais on mettait vraiment un point d'honneur au fait que même si tu nous payes quelque chose, tu ne deviendras pas plus fort que le voisin. C'était du free-to-play, ouais. On appelle ça le non-pay-to-win, parce que ça se fait beaucoup. Typiquement, aujourd'hui, la plupart des jeux mobiles, plus tu payes, plus tu deviens fort. Ouais, et nous, dans notre éthique de gamer, on était contre. C'est pour ça qu'on vendait surtout, principalement, des objets cosmétiques ou des petites fonctionnalités qui ne vont pas rendre un joueur plus fort qu'un autre. Typiquement, notre produit phare, c'était le fait d'avoir une arme avec un compteur de victimes dessus. Ce qui veut dire qu'on joue tous les deux, on a tous les deux exactement la même arme, mais tu vois que moi, j'y ai écrit que j'ai tué 1500 personnes avec, ouais, et toi, il n'y a rien écrit dessus, que ouais. Je dis « Ah, mais du coup, j'aimerais bien ». Du coup, on a aussi basé notre modèle économique sur le fait de ne pas être plus puissant que l'adversaire, simplement contre rémunération.
Super.
Et donc, ouais, le jeu étant gratuit, et même avant la sortie officielle du jeu, on avait ouvert le jeu au public, on avait fait une bêta ouverte, et dès avant même que le studio existe pour de vrai, on avait déjà présenté notre prototype à la Japan Expo depuis 2013.
Wow. Et oui, Jessica, tu aurais peut-être pu entendre parler de Nicolas Eskenazi juste avant.
Ouais, parce que j'allais à la Japan Expo tous les ans avec mon frère. Bah, la dernière fois, c'était en 2019, donc ça... Plus de conventions pendant 2 ans, hein. La culture des conventions, là, c'est un ouais. peu mort. Et du coup, c'est à mon tour de cuisiner l'invité avec des questions. Donc, je ne sais pas si je peux te tutoyer.
Je t'en prie, s'il te plaît, sinon ça me mettrait extrêmement mal à l'aise et je serais obligée de te vouvoyer en retour.
Voilà, donc comme ça, c'est mieux, on sera plus à l'aise. Donc, du coup, depuis quand as-tu voulu travailler dans le domaine du jeu vidéo? Est-ce que c'est depuis petit ou alors depuis quand même?
C'est depuis quand même pas mal petit. Le fait de le concrétiser, ça c'est arrivé un petit peu plus tard. Au début, je voulais un petit peu plus, parce que ça me semblait plus faisable, être du côté graphique de la force en étant infographiste ou quelque chose comme ça, mais je me suis très vite rabattu sur le concept. De manière générale, qui en parlait tout à l'heure, c'est Raphaël qui en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai été inspiré depuis mes 3 ans où j'avais ma première manette en main, première Mega Drive 16 bits avec Sonic, le fameux hérisson bleu qui court très très vite. C'est, je pense, lui qui m'a donné d'abord l'amour du gameplay, proprement parler, et des sensations, le fait que le hérisson, il aille tellement vite qu'il sorte de l'écran et du coup, on a une vraie sensation de vitesse. Le côté vraiment de dire, oh là, j'ai envie moi aussi de pouvoir faire vivre des expériences comme ça à des gens. Donc ça, c'est pour tout le côté vraiment game design, à proprement parler, enfin le côté mécanique de jeu. Et pour le côté également mécanique, mais aussi ce qui a rajouté le côté histoire et narrative design, je pense que c'est à mes 8-9 ans quand j'ai joué à Final Fantasy VII, qui a un scénario digne, à l'époque, je l'avais dit à ma mère, un scénario digne de Zola, c'était pas passé du tout. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose avec un retournement de situation, des personnages hyper creusés, des révélations bien jaugées, etc. Et c'est vraiment un jeu qui, au-delà de l'aspect gameplay, m'a vraiment fait transcender, uniquement avec l'histoire et le déroulement. Donc je pense, oui, effectivement, je voulais faire du jeu vidéo, peut-être pas, mais du ludique, dans tous les cas, a priori, depuis... aussi loin que dont je me souvienne, quoi. Genre, mes 3 ans avec Sonic et mes 8 ans avec Final Fantasy VII.
Je pense d'ailleurs que le jeu Final Fantasy VII, c'est un jeu qui a marqué tellement d'esprits, c'est dingue. Pourtant, il y a des choses qu'on pourrait lui reprocher, mais moi, c'est pareil. Hein. Quand Aerith est morte, j'ai pleuré, hein. J'en pouvais plus.
Déjà, il y en a, ils ont pleuré. Et ils ont refait, une réédition de ce jeu-là l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, 2019 ou 2020, il s'est vendu comme des petits pains.
Bah ouais.
Mes potes, ils étaient sur Facebook, surexcités. Final Fantasy VII, ils ressortent, ils ont changé des trucs et tout, trop bien.
Les musiques aussi étaient incroyables. Toute la complexité du personnage.
Tout, c'est vraiment un jeu phare. Après, j'ai suivi les autres, la continuité de cette licence. Du coup, chaque Final Fantasy, c'est une histoire différente, donc le 8, le 9, etc. Mais ça m'a donné vraiment goût de l'histoire, des mécaniques de combat. Et aussi, tu en parlais, des musiques de manière générale. Et le compositeur du coup, qui s'appelle Nobuo Uematsu, qui est le compositeur de la plupart des jeux Final Fantasy, qui pour moi est un tueur né. Vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de faire sur un clavier 8 bits des petites musiques, et tu files cette partition sans la toucher à un orchestre symphonique, et ça fait quelque chose de magnifique. Ouais. Que je recommande d'ailleurs, bon, je fais la pub pour quelque chose dont je n'ai absolument aucun intérêt, mais bref. Ils font des musiques orchestrales, du coup, des concerts orchestrales, des différentes musiques de tous les Final Fantasy. Le groupe s'appelle Distant World. Donc là, avec la reprise des concerts, il y a moyen qu'ils refassent des tournées en France. J'y suis allé pendant 4 années de suite. Qu'on soit amateur ou pas de jeux vidéo, qu'on connaisse ou pas les musiques, c'est vraiment une expérience assez incroyable. Je recommande tout à fait.
Et du coup, si tu ne travaillais pas dans ce domaine qui est le jeu vidéo, qu'aurais-tu choisi ?
Eh bien, il se trouve que je ne fais pas que cela, parce que du coup, comme je l'avais expliqué, mon studio a fermé. Aujourd'hui, je suis sur un deuxième projet de jeu avec un autre studio qui s'appelle School Studio, sur un projet qui s'appelle Last Moon, comme la dernière lune, que vous pouvez aussi très facilement retrouver sur Steam pour le mettre dans votre wishlist ou directement sur leur site internet. Mais du coup, ce n'est qu'une petite partie de mon activité. Sinon, je continue du coup à faire... je suis chef de projet numérique. Du coup, je vais encadrer des techniciens et différents profils pour... réaliser par exemple des sites internet, je fais aussi un petit peu de communication, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rencontré Asperger Amitié avec Myriam qui m'avait contacté pour lui filer quelques petits coups de main en termes de communication, et sinon j'essaye de mon côté sur mon temps libre en espérant passer officiellement professionnel là-dessus, à faire du prototypage, mais cette fois-ci de jeux de plateau, qui est vraiment un domaine qui me passionne énormément. Et du coup, là, je jongle un petit peu entre ma casquette de chef de projet numérique, game designer, narrative designer. Je donne des cours de game design, pour le coup, jeux de plateau, à la fac et dans différentes écoles. Du coup, voilà, je ne travaille pas que dans le domaine du jeu vidéo, je fais déjà pas mal d'autres choses, mais toujours avec cette fierté mal placée de toujours faire que des choses qui m'amusent un petit peu.
Jessica, je crois que tu as eu une autre question, non ?
C'était deux questions par personne.
Non, j'en vois une troisième. Là.
Mais vraiment ça, si on aura le temps, tu vois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont
posé. Très bien. Merci Jessica. Non.
Ok, merci.
Bon. Nicolas, est-ce que tu te considères comme un geek mania ?
Salut Raphaël. Alors, est-ce que je me considère comme un geek tout court déjà ? Oui, sûr et certain. Depuis toujours, je suis plus du côté geek de la force. Alors après, aujourd'hui, c'est quand même un terme qui a énormément changé. À l'époque, quand on était au collège avec mes amis et qu'on nous appelait les geeks, c'était extrêmement péjoratif. Et aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus « Ah mais c'est stylé, maintenant je geek sur Angry Bird ». Alors du coup, nous on était là « tu geek pas vraiment du coup ». Mais aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais moi je suis un geek d'Harry Potter, moi je suis un geek des mathématiques ». Mais du coup... définir le mot geek, quoi. Est-ce que si geek, ça veut simplement dire passionné par de la fiction ? Oui, complètement. Et si geek mania, ça sous-entend qu'on est vraiment expert en la matière et qu'on connaît par cœur une œuvre, ça dépend de quoi. Typiquement, si on me reparle de Final Fantasy VII, oui, je suis capable de détailler le scénario, tous les personnages, etc. Mais dans la plupart des fictions, même quand je suis extrêmement fan d'une fiction, je ne vais pas aller jusqu'à regarder tout ce qui va être autour du jeu, par exemple... par exemple, tout ce qui est univers, voilà, j'aime bien Star Wars, j'aime bien Le Seigneur des Anneaux, mais je suis extrêmement loin de tous les fanatiques du genre qui m'éclateraient si jamais on devait faire un questionnaire sur la question, quoi. Du coup, je suis un geek, mais à chaque fois que j'observe une création culturelle ludique, je me mets tout de suite à la place de celui qui l'a créé et j'ai tout de suite plus envie de créer quelque chose du style plutôt que d'aller chercher tout ce qui gravite autour de son univers. Je fais « Oh, ça c'est trop bien !» et pas « C'est trop bien, je m'y intéresse » et « Oh, bah ça c'est trop bien, je veux faire la même chose. » C'est un peu plus comme ça que je raisonne, quoi. Donc oui, je suis extrêmement geek. Mais du coup,
geek empathique en plus.
Geek empathique, ouais.
Ils sont plus rares, ceux-là.
Geek empathique, c'est-à-dire de sortir, de se mettre en place de la place de cette personne.
Exactement.
Exactement. Que ce soit du point de vue du joueur ou du point de vue du créateur, moi j'aime vraiment beaucoup me mettre un petit peu à la place des autres, justement pour essayer de réfléchir en amont à tiens, là le jeu il me fait faire ça. Ça veut dire que le mec qui a créé le jeu, il a pensé à ça comme ça. Donc à mon avis, la bonne solution elle est plutôt par là. Tu vois, par exemple, c'est vraiment la. J'ai peut-être une autre manière de penser le jeu en y jouant, en me mettant tout de suite à la place du créateur. Et du coup, je vais peut-être un petit peu moins aller dans tout ce qui va être la culture fan, les fanfictions, avoir tous les artworks, tous les machins. Je ne suis pas, je suis pas un collectionneur, je ne suis pas un surcollectionneur, mais c'est sûr que... Voilà, c'est pour ça le terme geekmania me trouble un petit peu parce que je le connais pas trop. Est-ce que je suis un geek? Oui. Et est-ce que je suis un geekmania, c'est-à-dire un geek plus? Je ne suis pas certain.
En tout cas, le jeu a l'air d'être quand même au cœur de tes préoccupations sous toutes ses formes, quoi.
Oui, tout à fait. Je considère que la vie est un petit peu un jeu. Mmh. Voilà, même si c'est le slogan de, je ne sais plus, PlayStation ou Xbox, j'y avais pensé avant quand j'étais petit.
Ok.
Avant de te lancer dans cette création de ton jeu, est-ce que tu faisais des jeux en ligne avant et que, est-ce que ces jeux, ça t'a inspiré à de faire... ton propre jeu?
Oui, évidemment. En l'occurrence, pour reprendre l'exemple de UB, c'est le raccourci pour The Ultimate Us Battle, c'est vraiment un mélange des styles entre les jeux, les Worms, donc les vers de terre pour ceux qui connaissent, et le jeu Team Fortress 2, qui est un jeu de Valve pour ceux qui connaissent également sur Steam. Et ces deux jeux sont des jeux en ligne, entre guillemets. Worms, j'y jouais quand j'étais plus jeune, avec des amis à plusieurs sur le même ordi. Et avec l'avènement du jeu en ligne, les Worms étaient déjà jouables en ligne, mais on ne le faisait pas parce qu'on était trop jeune et on avait trop d'une mauvaise connexion. Et avec Team Fortress, par exemple, c'est l'un des jeux en ligne sur lequel on s'est le plus amusé avec des amis. Et d'ailleurs, même si j'ai été le game designer de The Ultimate Us Battle, l'idée originale ne vient pas de moi. Nous, on était parti sur un autre projet qui ressemblait un petit peu plus... toujours sur du jeu en ligne, à du Dofus, mais à du Dofus en beaucoup plus dynamique. On avait vraiment envie de faire un tactical dynamique, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Mais étant donné qu'on était trois dans le studio, se lancer dans un MMORPG, ça nous semblait vraiment beaucoup trop gros. Et du coup, on réfléchissait à un autre concept. Donc on avait deux, trois petites idées. Et un matin, suite à une conversation avec un de ses amis, je crois, mon développeur m'appelle, Hugo, que je salue. Il m'appelle, il me dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas trop bien de... Tu vois les Worms, tu vois Team Fortress, si on faisait un peu un mélange des deux et tout. Et j'étais là, banco quoi. Et c'est parti, j'ai commencé à plancher sur le truc tout de suite. Et du coup, oui, je pense que les jeux auxquels on a joué nous ont directement inspiré et donné l'envie de créer des espèces de concepts similaires. Et en fait, on a décidé pour ce premier projet de faire du neuf avec du vieux, vraiment en prenant deux jeux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et de les mélanger pour faire un concept de jeu qui, du moins à l'époque où on l'a sorti, n'existait pas du tout.
C'est-à-dire s'inspirer les rétros, mais en ajoutant un nouveau gameplay.
Voilà, c'est ça, dans l'idée. Bah, nous, en fait, ce qu'on aimait bien dans les Worms, c'était le côté deux dimensions et le côté le terrain qui se détruit. Mais on n'aimait pas le côté long. Une partie des Worms, il y a un personnage qui joue, il tire, après c'est un autre personnage, il joue, il se déplace, il saute, il tire, après c'est un autre... Et c'est extrêmement long. Nous, ce qu'on avait envie, c'est d'avoir le dynamisme de Team Fortress, où c'est du coup plutôt un jeu, pour ceux qui connaissent, Counter-Strike, ou Call of Duty, ou Overwatch, c'est vraiment un jeu extrêmement dynamique. Mais du coup, avec ce principe de personnage en deux dimensions, avec le terrain qui se détruit, mais où tout se passe en temps réel, et où chaque personnage est personnalisable pour que chacun puisse jouer en fonction de sa propre manière favorite de jouer, on va dire. Et du coup, on a vraiment pris ces deux principes-là pour en faire un mélange des genres qui a donné UB, qui a eu quand même son petit succès pendant quelques temps. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des jeux qui ressemblent à ce que nous, on avait proposé, mais on n'en a toujours pas trouvé qui refaisait exactement la même chose, quoi. Du coup, même, et je pense que c'est extrêmement difficile, voire impossible, de ne pas s'inspirer de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui quand on crée, le tout, c'est quand même d'essayer de faire le plus original et de faire quelque chose. Voilà, nous, on s'était dit, quel jeu, en tant que gamer, on aimerait bien aujourd'hui, en considérant tous les jeux existants, dit, voilà, nous, on a envie de jouer à un jeu qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on serait capable de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Et du coup, ce petit appel de mon développeur qui m'a suggéré un mélange entre ces deux styles assez différents a été tout à fait révélateur pour moi.
Mmh, c'est ce qu'on peut appeler des rétro, mais old school.
Voilà, c'est ça. Faire du neuf avec du vieux, comme je disais.
Bon, bah, et quelles sont les qualités nécessaires pour créer son studio?
Alors ça, pareil, ça va être très subjectif comme réponse, parce que le studio que nous, on a créé, quand on l'a créé à la base, on était 3, on était 7 en tout dans l'équipe d'Edu Games. Et du coup, comme je le disais, chacun devait jongler entre plein de casquettes différentes. Normalement, si jamais tu vas travailler chez Ubisoft en tant que graphiste, tu vas pas faire tout le graphisme. Loin de là, tu vas être cantonné soit aux illustrations, soit aux animations, soit aux lumières, soit aux ombrages, machin. Et dans un petit studio à échelle humaine, évidemment, tout le monde doit faire un petit peu de tout. C'est comme ça, je disais, moi, typiquement, je me suis retrouvé à faire de la communication, de l'administratif, de la gestion de projet, du game design, et j'en passe. Et tout le monde était dans ce cas de figure. Du coup, je pense qu'être versatile pour un petit studio à taille humaine, c'est extrêmement important. Savoir s'associer avec des gens avec qui c'est agréable de travailler, et puis être aussi au courant que ça va pas marcher tout de suite, être extrêmement patient. C'est pour ça que le fait d'avoir un revenu à côté quand on crée son studio, c'est toujours recommandé, parce qu'au bout d'un moment il va y avoir la problématique financière, et c'est ce qui nous a fait qu'au bout d'un moment le studio a dû fermer parce que le jeu n'était pas assez rentable. Ça faisait 6 ans qu'on travaillait dessus, on s'était un petit peu épuisé, on s'est dit bon, écoutez, on arrête les frais, on va tous récupérer un petit peu de quoi manger de côté, et puis pourquoi pas se retrouver plus tard pour recréer quelque chose. Mais du coup voilà, être aussi au courant que c'est extrêmement valorisant comme expérience, mais c'est aussi extrêmement chronophage, extrêmement épuisant. C'est pas un travail où tu vas travailler pendant des heures du bureau, et quand tu rentres chez toi, t'as ta vie de famille et tout. Tu vas te coucher avec ton projet, tu te réveilles avec ton projet. Tes week-ends, ça peut être, voilà, typiquement quand on faisait la Japan Expo, etc. Donc c'était des journées complètes extrêmement épuisantes, extrêmement valorisantes aussi, mais c'était vraiment extrêmement crevant. Donc faut être aussi conscient qu'on va consacrer une partie de sa vie à un projet, sans que le projet nous rapporte quoi que ce soit à part de l'estime de soi pendant un moment, jusqu'à ce que le jeu sorte et puis paye éventuellement enfin ses fruits. Mais je pense, voilà, de la patience, de la créativité, de la remise en question et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement.
D'accord. Donc, au fait, quand on crée un jeu, ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre que ça fasse en claquement de doigts, mais c'est aussi de savoir travailler dessus, mais aussi le scénario, le graphisme, le gameplay. Mais le temps qu'on essaye de trouver une solution pour ce jeu, ça ne veut pas dire qu'il est fini. Ça veut dire qu'il faut aussi revoir chaque concept dedans.
Oui, et voilà, c'est ça. Dans la... tout ça, enfin, il y a toute la partie technique, effectivement, Raphaël, tu as raison. De le jeu, une fois qu'on l'a créé, c'est pas la fin, quoi.
Non, parce qu'il faudrait quand même voir s'il y a des bugs. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent lancer des commentaires en disant il est pas bien parce qu'il est bugué. Donc les joueurs vont se plaindre contre ce jeu qui se disent qu'il n'est pas du tout fini.
Et complètement. Au niveau valorisation aussi, c'est exactement ça. Il y a le côté ton équipe se tue à la tâche pour rendre quelque chose de bien. Et c'est vrai que, comme tu le dis, les gens ne vont pas relever toutes les choses qui marchent. Ils vont pas dire « Oh, trop bien, ça marche, trop bien, ça marche, trop bien, ça marche. » Par contre, ils vont dire « C'est nul, ça marche pas. » Et du coup, c'est sûr que quand tu passes des heures et des heures à développer quelque chose, je pense à mon dev qui a énormément penché sur des soucis techniques pour faire en sorte que les choses tournent bien et tout. Et puis du coup, il est hyper satisfait que ça tourne. Mais vu que les gens n'ont pas vu à quel point il a galéré pour que ça marche, les gens, il y a un nouveau contenu qui sort, ils font « Oh, il y a un nouveau contenu ». Mais par contre, s'il y a un nouveau contenu qui sort et qui est buggé, là, tout de suite, c'est l'avalanche de critiques, etc. Donc, il faut aussi que ce soit par rapport au fait que ce soit rentable et que du coup, il y a la reconnaissance financière, etc. Même la reconnaissance des joueurs, on est sur Internet. Hein. Les gentils parlent peu et les relous parlent beaucoup et très, très fort. Donc, il faut aussi être suffisamment fier de son projet pour que, même s'il plaît à personne et même si c'est un flop commercial, t'es quand même fier de ce que t'as fait. Et je pense que c'est le plus important d'avoir ta propre reconnaissance et la reconnaissance de tes pairs avant que ce soit, évidemment, pour moi c'est un plus, que le jeu plaise et que le jeu soit rentable. Mais c'est secondaire. Il faut se dire que, dans tous les cas, je fais ça comme un musicien qui travaille par passion. C'est au bout d'un moment, je veux vivre de ma musique. Mais si jamais j'arrive pas à vivre de ma musique, le fait de faire de la musique, c'est déjà tellement satisfaisant pour moi que bah, je peux me trouver un gagne-pain à côté. Dans tous les cas, je continuerai à faire de la musique. C'est à peu près ce qui s'est passé avec nous et Dio Games.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Je pense que Sophie peut nous éclairer aussi sur une nouvelle dimension à laquelle on n'a pas forcément pensé, qui est la dimension sociale.
Oui. Donc, ma question, en fait, ça porte sur les jeux multijoueurs. Il y a une tendance en ce moment à ce que les gens se rassemblent sur Internet et jouent à des jeux en ligne. Et je voulais savoir quels étaient les bienfaits et les risques, selon toi, de cette pratique. Savoir quand même que le jeu vidéo... c'est une deuxième question que j'inclus dans cette question, je suis désolée. Mais du coup, je me demande, en fait, pourquoi aussi avoir choisi ce domaine-là? C'est un peu aussi un monde imaginaire qu'on se reconstruit tous quand on joue à un jeu vidéo. Et d'où vient... Mais je suis désolée, c'est une deuxième question, je la reposerai après. Mais déjà, est-ce que selon toi, il y a plus de bienfaits que de risques?
Alors, c'est assez complexe comme question. D'un côté, là, on vient de sortir d'une période de confinement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont béni le jeu en ligne pour pouvoir continuer à avoir des rapports sociaux avec leurs amis. Voilà, je pense au succès de Gartic Phone, Among Us, ou même des jeux très très simples qui ont touché les gens qui n'étaient pas nécessairement geeks, qui a permis du coup de se retrouver en ligne entre amis et de jouer à quelque chose de commun. Et de manière générale, même hors confinement, les jeux en ligne, ça permet d'avoir une sociabilité chez soi. En fait, on peut être tout seul dans son petit deux pièces, alors qu'en fait, on joue avec 45 autres personnes qui sont chacun chez eux, mais on est quand même tous ensemble, quoi. Donc il y a ce côté, comme tu disais aussi, le côté univers fantaisiste, on quitte un petit peu la réalité pour se retrouver dans un autre monde où on est quelqu'un d'autre, on vit d'autres aventures. Voilà, il y a un côté un petit peu échappatoire, évidemment, dans tout ce qui est domaine fantaisiste. Et par contre, effectivement, c'est Internet. C'est le vrai monde. Quand on se confronte au vrai monde, on peut tomber sur des abrutis et on n'est pas à l'abri d'avoir des insultes gratuites, racistes, sexistes sur les mamans et j'en passe. Et il faut savoir aussi relativiser, et je pense qu'il faut être préparé psychologiquement. Je pense que c'est la même chose d'être sur un jeu en ligne. On se confronte au public aussi bien que quand on monte sur scène ou quand on sort une vidéo YouTube. Sortir une vidéo YouTube, c'est très bien. Mais il faut être prêt à se faire détruire dans les commentaires. Parce que les gens, c'est leur petit plaisir à eux, c'est d'essayer de faire du mal aux autres, de machin. On va toujours tomber sur des crétins, je pense, partout, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. Et en l'occurrence, le jeu vidéo n'y fait pas exception. Mais si jamais on réussit à faire le tri et à ne pas être trop personnellement affecté par tout ce qui est négatif, on peut se galvaniser d'énormément de choses et faire de superbes rencontres sociales, amoureuses ou autres directement sur Internet, que ce soit des plateformes de discussion ou directement des jeux vidéo.
Et comme tu nous le rappelais, être dans l'écoute, c'est-à-dire ne pas le prendre personnellement et pouvoir par moment bénéficier aussi de cette critique pour pouvoir améliorer ce qu'on propose. Mmh.
C'est ça. Sauf quand c'est de l'insulte gratuite. Là, pour le coup, il faut se mettre dans la place de l'autre et dire « Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire à... Il est juste crétin. Très bien, je baisse.
Oui, il y a quand même un gros phénomène d'addiction, hein, je pense, dans
ça, complètement.
Et puis, c'est un monde imaginaire. Je suis persuadée que les gens peuvent se rencontrer comme ça, oui, mais c'est quand même...
Oui, tu as raison. Il y a quand même un facteur d'isolement, en fait. Même dans le côté multijoueur, dans le côté communauté, on peut se retrouver dans quelque chose où, effectivement, on est un peu enfermé dans ce truc-là.
On est dans son monde, donc on peut se construire toutes ses croyances. Je ne veux pas voir les choses de manière trop négative, hein, mais bon, il manque tout ce contact, toute cette vie réelle, en fait, qui fait que...
Complètement. Après, il y a aujourd'hui pas mal de gens qui ont beaucoup plus de difficultés à être socialement aptes et d'aller voir quelqu'un dans la rue qu'on n'a jamais vu pour lui dire hey, « Hé, tu veux être mon ami ?» C'est un petit peu compliqué quand même.
Bah oui, aujourd'hui, on est bien passé pour le savoir, nous.
Avec Internet, oui, j'imagine bien. Et avec Internet, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Donc d'un côté, c'est la porte ouverte à toutes les critiques parce que des gens se sentent en sécurité et ils se permettent d'être désagréables.
Oui.
Mais d'un autre côté, on va plus facilement vers l'autre, on est plus rassuré, oui. On a moins peur d'accepter la discussion.
Mon questionnement, c'était plus vraiment sur une espèce de monde parallèle qu'on se construit nous-mêmes, on reste un peu dans notre univers et dans nos croyances, c'est plutôt ça ma peur, entre guillemets.
Moi ça, je pense que ça dépend vraiment des mécaniques du jeu auquel tu joues, parce que si c'est juste un jeu social où le but c'est de se rencontrer, voilà, bah, tu peux très vite te lasser et puis tu t'en vas. Si jamais les mécaniques de jeu rentrent directement dans ton cerveau parce que ça te provoque de la dopamine de gagner un niveau et que du coup chaque jour tu veux regagner un niveau parce que machin, et puis il y a aussi la compète, je me suis récemment remis à un jeu en ligne, je n'aurais peut-être pas dû, mais c'est assez intéressant de voir à quel point c'est aussi un phénomène social, c'est voilà, le jeu, on s'y sent bien, c'est sympa ces trucs, mais le fait que les gens jouent avec toi et on avance en groupe, ça fait que, ah ouais, mais du coup si jamais je joue pas pendant 3 jours, je vais être un petit peu distancé par le groupe et j'ai envie de continuer à jouer avec mes copains. Et du coup, voilà. Et ça, c'est pour les jeux, gros jeux sur ordinateur, par exemple. Mais je pense aussi, comme tu disais, aux jeux les plus addictifs. Les plus addictifs, c'est les jeux mobiles, par exemple, qui vont vraiment, vraiment rentrer dans le psychologique pour faire en sorte que tu veuilles revenir parce que ton cerveau est dépendant de cette substance chimique que la satisfaction du jeu te produit. Mais je pense que ça, c'est totalement indépendant du côté social du jeu, en fait. Il y a le jeu a des aspects sociaux que tu peux apprécier, tu peux un petit peu devenir addict au fait de voir les copains et les copines, mais si tu deviens addict à un jeu vidéo, c'est plus par rapport aux mécaniques et comment il a été conceptualisé en amont pour justement te faire revenir tous les jours, tout le temps, le plus longtemps possible.
Et ça, c'est un long débat qu'on pourrait avoir pendant heures,
oui,
mais malheureusement, nous n'avons pas
questions.
Des heures d'antenne.
Oui.
Donc, je te propose, Sophie, qu'on laisse
Lucas
le temps qui reste à Lucas. Merci beaucoup pour cet échange.
J'ai vu que je n'ai eu le temps que pour une seule question, donc je vais être bref. Quel conseil donneriez-vous à tous les étudiants qui rêvent de faire le même métier que vous ?
Oula, de foncer sans hésiter, d'y aller tête baissée. Alors, pas trop tête baissée, parce que nous, on l'a fait et on s'est pris quelques murs en chemin. Du coup, mais de ne pas agir par peur. Par peur de l'échec, par peur de la confrontation, par peur du regard des autres. Ça, il faut vraiment y aller. Il n'y a pas plus grande satisfaction que le fait de créer et de donner du plaisir aux autres par rapport à ce qui est simplement sorti de ton cerveau, quoi. Donc, il faut évidemment se renseigner le plus possible en amont. Nous, si on l'avait fait plus par rapport à des subventions, par rapport à des aides, par rapport à des choses comme ça, on s'en serait probablement mieux sorti. Mais j'ai absolument aucun regret aujourd'hui d'avoir tenté l'aventure pendant 5-6 ans avec des gens que j'adore, même si le studio a foncé dans le mur à un moment donné et qu'on a dû se séparer et que c'était un peu un flop commercial et que du coup on n'a pas gagné des milliers et des cents pendant toute cette période. Ça reste quand même pour moi une expérience hyper valorisante, une expérience extrêmement bien. Et ça t'apporte des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Si j'ai le temps, je vais juste sortir une micro-anecdote. On était, par exemple, on était à la Japan Expo, je ne sais plus quel salon, pour la 2e ou 3e année consécutive. Et on voit arriver au loin une brochette de 3-4 personnes, bras dessous, hyper souriant. Enfin, voilà, tu vois, c'est les meilleurs amis du monde, ça se voit. Et ils arrivent et en fait, ils te disent « Mais vous savez, c'est la première fois qu'on se voit. On s'est rencontrés sur votre jeu et on est les meilleurs potes et machin. » Et en fait, ça t'apporte tellement de petites choses en plus auxquelles tu ne pensais pas. Donc ça t'apporte aussi des frustrations. Voilà, des gens qui... Nous, on a des gens qui ont joué pendant des centaines d'heures à notre jeu, qui adorent le jeu, mais qui, juste parce que c'est des trolls, ont décidé de nous descendre dans toute la presse possible. Ils ont mis des commentaires. « Oui, j'ai joué qu'une demi-heure, ça se voit, c'est nul. » Le mec, il a joué 700 heures de jeu. C'était « Mais non, c'est pas possible. »
Ah ouais, carrément. Donc, il y a vraiment des gens qui le font exprès.
Ah ouais, complètement. Ça, il y en a plein. Mais du coup, voilà, c'est en fait, t'as tout un spectre des réactions humaines auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc, t'as forcément du négatif. Mais si tu réussis à mettre un petit peu des œillères là-dessus, tu te dis « Ok, ça on oublie et je me galvanise uniquement de tout le positif qu'on m'apporte. » Il y a tellement, tellement de bonus. On a eu voilà, des couples qui se sont formés sur le jeu. On a eu dans des salons des gens qui nous ramènent des répliques d'armes. Genre, on avait inventé, par exemple, le bazookarter. C'est un bazooka en forme de grosses veines de baleine. Il y a un mec qui est arrivé avec son plâtre, avec de la peinture, et il nous a donné un bazookarter qu'il avait fait lui-même. Et que des petites choses comme ça qui sont tellement, tellement valorisante et auquel on ne s'attend pas spécialement parce que nous, on se dit,
c'est énorme,
je construis un produit ludique et je le fais tester aux gens. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça. Enfin, n'importe qui fait de la création sur Internet, il va très vite recevoir des fanarts. Et en fait, bah, quand ils pensent pas, tu t'attends pas spécialement à ce que quelqu'un consacre autant de temps à faire une réalisation parce qu'en fait, il s'approprie ton univers et ça devient quelque chose qui lui fait rêver la nuit. C'est tellement magique et c'est tellement valorisant que oui.
En même temps, toi qui connais cette image, cette métaphore de comme si c'était un enfant et que tu pouvais pas choisir entre tes enfants,
oui.
Bah, tu vois, là, tes enfants, ils te ramènent tous des petits dessins.
C'est exactement ça.
Qu'ils ont fait.
C'est vraiment exactement génial. Ça, quoi. Donc, pour te répondre directement à tes questions, oui, quel conseil je donnerais pour les étudiants qui veulent faire du jeu vidéo, c'est vraiment se renseigner un maximum quand même en amont, bien s'entourer, être conscient de ce sur quoi on va se lancer. Mais après, on n'est pas obligé de faire un travail à plein temps dessus, il faut quand même être un minimum rigoureux. Nous, quand on a commencé UB, on a commencé à se voir simplement les mardis soirs, puis c'était deux fois par semaine, puis petit à petit, on est passé à plein temps sur le projet. Mais c'était dès le départ, c'était vraiment une expérience super enrichissante et je recommande à tout le monde de vraiment foncer, même s'il faut quand même savoir à quoi s'attendre, savoir qu'on va pas être millionnaire tout de suite du tout, que c'est possible que ça marche pas, mais il faut que ce ne soit pas grave.
Pour ces dernières pensées qui sont quand même pleines d'optimisme, donc ça fait plaisir. Quant à nous, on va se retrouver donc dimanche 26 septembre, toujours au même endroit, 14h, 15h30. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Et on vous souhaite de continuer comme ça à suivre vos rêves, à écouter les autres, à toujours avoir de l'empathie. Et entre nous, vive la liberté.